Vous écoutez RMC. RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Les GG ce matin sur RMC. Allez-vous suivre le match de l'équipe de France ce soir à 23h sur RMC? La France affronte la Suède en 16e de finale de la Coupe du Monde. Et pour Antoine Diers, consultant des GG, l'horaire du match n'est vraiment pas pratique. Écoutez.
Moi, je vais me coucher.
Antoine, il s'en fout.
Et je regarderai le résultat le lendemain matin en me réveillant. Et puis, s'ils ont gagné, je serai content. Et puis voilà, et puis, j'aurais bien dormi, moi. J'espère juste.
Je regarde même pas la première mi-temps.
Mais non, mais de toutes les façons, je vais être informé parce que je vis en centre-ville de Dunkerque. Il y aura des klaxons, il y aura des trucs. Je saurai quand on marque un but. Donc, je vais essayer de fermer les yeux tranquillement. Voilà. J'espère juste qu'ils vont pas nous faire le coup de la foudre comme la dernière fois, là, où ça s'est terminé à
3h. Ah oui, avec 2h50 de pause.
C'est possible, ça peut arriver.
Et là, tu te retrouves avec les mecs qui explosent de joie en pleine nuit, à 3h du matin, autour de chez toi.
Pierre Rondeau, vous allez veiller ce soir?
J'ai déjà veillé hier. Je suis allé au bout du match Allemagne-Paraguay avec les tirs au but. Demain matin, je fais la matinale. Alors vraiment, je me tâte.
Ah ouais, carrément.
Ouais, mais justement, déjà que j'ai peu dormi cette nuit, s'il faut que j'enchaîne une deuxième nuit blanche.
On va aller se coucher maintenant, là, dans 10 minutes.
Ouais, mais il faut choisir ses combats, Pierre.
J'ai des chroniques à préparer en amont, donc ouais, il faut choisir ses combats, mais mon cœur balance. À la fois, mon corps me dit, va te coucher.
Ouais.
Et mon cœur me dit, mais allez, la bamboche, amuse-toi, c'est l'équipe de France,
allez, allez.
Monde.
allez.
Oui, je rigole à ça.
Jean-Philippe Doux.
Oui, ah ben oui, évidemment que je vais regarder mes fils aussi, même celui de 11 ans.
Il n'y a pas école demain?
Non, le collège c'est fini.
Oh bah super. Ah bah bravo. Bah vous qui êtes toujours à prôner une éducation stricte, etc.
Ah mais ça a été la discussion.
Et là il n'y a pas de problème. Allez, 3h du matin.
Son prof principal qui lui a dit non mais ne venez pas.
Voilà, donc, à partir de là oui.
Et d'ailleurs j'ai rien reçu sur Pronote. N'y est pas allé hier. Bon bref. Donc n'en parlons plus. Ce soir, évidemment, on va veiller. Je l'avais pas fait pour France Irak déjà parce que j'étais là le lendemain, j'avais un TGV tôt, mais surtout parce que c'était pas éliminatoire. Là, c'est éliminatoire. Je veux absolument être devant ma télé jusqu'au bout, même si la France mène 5-0 et je l'espère, je regarderai jusqu'au bout parce c'est.
Moi, 5-0, déjà 2-0, au lit.
Non, parce que maintenant, il y a les records aussi.
La pause pêcheur, ça dure 2 minutes. Il y a des arrêts de jeu.
Rappelez-vous, France-Suisse à l'Euro. On est par 2 buts d'écart et on a perdu.
Oui, je sais bien, mais franchement.
Je croise les doigts pour ça. 3-0 à la mi-temps, au dodo.
Une micro-sieste pendant la pause fraîcheur.
Mais moi,
je
me lève à 6h15. Aujourd'hui, les mi-temps, elles font jamais 45 minutes. Elles ont plutôt 50, 51. Plus, t'as la pause fraîcheur, les 15 minutes. Derrière, si t'as un orage, allez hop, tu reprends pour 2 heures.
Mais t'imagines une prolongation de tir au but. Oh là là.
On a envie. En fait, on a envie. Depuis la Coupe du Monde 86, j'ai jamais raté un match des Bleus à la Coupe du Monde. Mais là, j'avoue que là, je vais rater une deuxième mi-temps.
23h, c'est faisable. Je pense aux Marocains. Là, c'était à 3h du mat cette nuit. C'est compliqué pour eux, mais nous à 23h on peut.
Il y en a qui travaillent demain, on peut parler à 6h Jean-Philippe. Donc effectivement, si je me lève à 2h, ça conseille.
Est-ce qu'on peut parler des victimes collatérales quand même de ce mondial dont je fais partie? J'ai un amoureux du foot à la maison qui a réussi à contaminer mes fils, donc ils vont tous être devant la télé à 23h. Je n'aurai pas le choix, je vais être obligée de participer à la liesse générale et voilà.
Mais le petit dernier, il a quel âge?
13 ans. Il adore. Il a regardé le dernier match.
Et depuis,
avec son beau-père,
ça pose pas de problème.
Mais de toute façon, le collège est fini, là, en ce moment. Il y a eu le brevet, il y a eu la canicule. Ça fait un moment que le collège est terminé. Et donc, il se couchera à 2h du matin.
On l'a pas climatisé, d'ailleurs. Il n'y a plus personne dedans.
Et la salle télé est sous les toits.
Pas de problème.
La salle télé est sous les toits. Le toit n'est pas peint en blanc. Donc, est-ce qu'ils vont tenir? Je ne sais pas. On verra.
Appelez ce matin sur RMC, le nombre de candidats à la primaire de la gauche devient-il ridicule après Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Karim Bouamran ou encore Benjamin Lucas? Eh bien, c'est au tour du député PS de l'Eure, Philippe Brun, de se déclarer candidat à la primaire interne. Il l'a annoncé ce matin à Apolline de Malherbe.
Moi, je serai candidat à la primaire interne. Il ne s'agit pas d'ajouter une candidature extérieure. Le Parti Socialiste organisera une primaire en octobre. Nous en décidons ce soir. Et je serai candidat pour porter cette ligne populaire, pour que la gauche ne soit plus à côté de ses pompes, pour qu'enfin on reparle aux gens qui nous écoutent ce matin sur RMC, qui sont au volant de leur voiture et auxquels la gauche ne parle plus depuis trop longtemps maintenant.
Philippe Brun, moi, je vous connais. Mais vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui vous connaissent.
Oui.
Ça vous étonne pas, ça vous surprend pas, vous vous dites ça y est, je peux me lancer, je suis à la présidentielle.
On se croyait à la primaire interne et puis on aura un débat qui va nous permettre avant tout de faire valoir des idées.
Ben oui. Alors, Pierre Rondeau, vous qui êtes un homme de gauche, hein, vous le clamez sur ce plateau depuis 5 ans, est-ce que ça vous réjouit de voir toutes ces candidatures? Vous allez avoir le choix, Pierre.
Ah, c'est risible. Après, là, si on veut vraiment être tatillon et si on veut préciser, c'est la primaire de la primaire. Hein. C'est on va dire les phases qualificatives.
C'est la phase de poule.
La phase de poule, parce que là, c'est la primaire du Parti Socialiste.
Et vous jouez à 48 ou
désigner,
pas, vous aussi?
Bah là, oui, en l'occurrence.
Est-ce qu'on va repêcher le meilleur troisième chez les socialistes?
C'est la primaire socialiste.
Ça, ce serait sympa. Est-ce qu'il y aura un album Panini? Parce que je suis très friande.
Vous devrez le faire. Vraie idée.
Une petite image, une super idée.
Vous savez, avec des joueurs qu'on ne connaît pas, et vous voyez son président.
Ce monsieur Brun, c'est le curaçao de l'intérieur de gauche.
Le caveur,
il est là juste pour donner ses idées. C'est pas une vraie candidature. Il veut participer au débat.
Ils veulent faire exister et vivre le débat démocratique interne à un parti politique. C'est la primaire du PS pour désigner le candidat de la primaire de la gauche, pour désigner le candidat à la présidentielle. Voilà, il y a trois tours.
C'est ridicule.
Au-delà de cette explication. Évidemment, c'est ridicule, c'est risible, on va se moquer tout le long. Mais
et à la fin, il n'en restera
là, quoi. Là où je trouve ça intéressant, pour être un ancien militant, je ne suis plus aujourd'hui, mais un ancien militant d'un parti politique, ils font vivre la démocratie en interne. En interne, au sein des sections, il y a des débats, ils vont discuter sur qui va représenter le PS au sein de la primaire de la gauche. Mmh. Et ensuite, il y aura un débat dans la primaire de la gauche, qui va représenter pour la présidentielle. Ça fait vivre un parti politique. À la différence, par exemple.
Il faut être prêt en mars prochain pour les signatures. Parce que
prenez un exemple.
Où ça va.
Les deux plus grands partis de France, que sont LFI et le RN, il n'y a pas de démocratie en interne. Dans ces deux partis, vous avez les deux poids. Vous avez Mélenchon et Marine Le Pen ou Bardella. Et il n'y a pas de débat en interne. Là, ici, je me mets à la place d'un militant socialiste, qu'on peut moquer, mais un militant socialiste, quand il va en section, il débat. Il y a un débat en interne, ça veut dire une démocratie de parti. Et ça peut, je vais le dire vraiment avec beaucoup de guillemets, ça peut être intéressant pour les réflexions du mercredi soir en section.
En tout cas, petit coup de pub pour Philippe Brun, qu'effectivement, les Français ne connaissent pas vraiment.
Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'évidence dans ce parti-là. Ah tu cites les deux poids lourds.
Il y a des évidences,
des candidats naturels. Je ne sais pas si François Hollande est une évidence.
C'est plus une évidence que Benjamin Lucas ou Philippe
Brun. Bien sûr. Mais j'entends ce que tu dis, mais c'est vrai que c'est un parti qui essaye de se reconstruire, qui n'en finit plus d'essayer de se reconstruire, où il n'y a pas d'évidence de candidat qui pourrait l'emporter. Donc, quitte à ce qu'il n'y ait pas d'évidence, autant faire vivre le parti. C'est vrai qu'un parti, ça doit vivre aussi. Et pour ça, je trouve ça intéressant. De l'extérieur, on peut se moquer. De l'intérieur, il y a une vraie démocratie qui n'existe pas ailleurs et un vrai débat.
Ouais. Non mais c'est très bien, moi je trouve que c'est très démocratique, mais qu'ils fassent ça de leur côté, qu'ils viennent pas sur les plateaux dire je me présente. En fait, ils sont tous en manque de notoriété face à Hollande justement. Et si dans les sections ça vote selon la notoriété, en effet, ça va être la prime à François Hollande. Et donc ils essayent tous d'exister. Et c'est vrai qu'Apolline a raison de dire on vous connaît pas. Il est là pour se faire connaître. Ça arrive un peu tard. Et si c'est juste ça qui fait voter les militants, et je crois pas que ce soit ça. C'est plus un projet. Donc c'est dommage, mais qu'ils fassent ça de leur côté. J'entendais Fabien Roussel aussi ce matin sur RMC qui lui-même commence à en parler aussi. Là, en fait, on sait.
Fabien Roussel, on le connaît quand même, il a déjà été candidat.
Oui, mais toute l'année, Jean-Philippe.
Voilà, non, mais qu'ils le fassent chez eux et que. Non, mais. Et qu'ils viennent après. Qu'ils viennent après.
Ils passent un jeu de société dans leur salon.
Non, mais.
Puis, après, c'est Ségolène Royal qui avait inventé la démocratie participative. Bah, voilà, regardez, on y est en tout cas au Parti Socialiste. Les GG ce matin sur RMC. Y a-t-il trop de limitations différentes sur la route? Selon une étude menée par Coyote, sur 100 km parcourus en France, il y aurait 17 changements de limitation de vitesse en moyenne. Un véritable casse-tête pour les conducteurs. Et pour Sandrine Pégan, l'avocate des GG, il est impossible d'éviter la faute d'inattention.
Au départ, ça pourrait être de la sécurité routière. Donc, je te dis, ah oui, c'est bien pensé. La vitesse, elle est désormais décidée tronçon par en tronçon. Mais comme le dit Alain, derrière, t'as un radar. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, c'est même pas un impôt déguisé, ça s'appelle de la concussion. La concussion, c'est une somme qui est perçue par le fonctionnaire de façon illicite. Et j'ai même un confrère qui a décidé de déposer plainte contre l'État pour concussion, justement, parce que c'est un confrère spécialisé en droit de la route. Parce que justement, tous ces radars qui étaient positionnés à des moments où il n'y avait pas besoin, c'était pas justifié par l'accidentologie ou autre, c'était juste de la concussion, donc il recevait de l'argent, mais il a déposé plainte contre l'État. À voir ce que ça va donner.
Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'éviter la faute d'inattention sur la route, Jean-Philippe? Il y a quand même plein d'ustensiles qui sont mis à notre disposition, en fait. C'est-à-dire qu'on a des limiteurs de vitesse, etc. Enfin...
Mais oui, mais moi, je suis Sophie, hein, dans ce qu'elle dit. Moi, je suis le concu de service parce que je roule en deux roues.
Enfin, c'est Sandrine, mais...
Sandrine Pégan, pardon. Et je roule en deux roues. Oui. Et en fait, je n'ai pas le GPS sous les yeux. Donc, je ne sais jamais à combien on est. Donc, maintenant, ce que je fais...
Alors, un indice, il y a des panneaux ronds et rouges au bord de la route, oui, mais... qui nous disent à combien on doit rouler.
Oui, d'accord, mais je te défie de savoir combien...
Et comment on faisait avant, excusez-moi. Oui,
avant, c'était toujours 90. Avant, c'était toujours 90.
Il y avait des zones à 50.
Philippe, c'était 90 ou 50. Enfin,
ou 70.
Et 60 avant.
Mais on savait à peu près où on en était parce qu'on regardait autour de nous. D'ailleurs, c'était des questions du code de la route. Il y avait juste la photo. Est-ce que vous êtes en agglomération ou pas? On savait 90 ou 50 à l'époque. Moi, maintenant, je ne sais plus. Et donc, par définition et par défaut, je me limite à 80. C'est-à-dire que je fais attention parce que j'ai perdu des points. Maintenant, j'ai retrouvé mes 12 points. Donc maintenant, je me limite à 80. Et parfois, je vois, rappel 90. Je dis, ah non, c'est pas possible, mais j'ose quand même pas y aller parce que je sais que derrière ça peut retomber à 80 et honnêtement être attentif à tous les panneaux c'est quand même assez
compliqué. Mais c'est la loi en fait, c'est le principe.
Faut être capable de
voir un
panneau.
Dis donc, être attentif à tous les enfants qui traversent, c'est pas facile.
Tous ces feux rouges là.
J'en ai raté deux hier. Non mais enfin Jean-Philippe, bien sûr, c'est l'idée, c'est d'être attentif.
Oui mais s'il y a des rappels, s'il y a des panneaux 80 rappels, c'est qu'en effet tout le monde n'a pas conscience. Enfin vraiment, vous faites parce que vous avez un GPS qui vous le dit, mais vraiment non, mais coupez le GPS et je vous demanderai à combien il faut. On ne le sait pas. Et même sur des grandes voies, moi dans ma Provence, là, je suis estomaqué de voir 80 alors que tout roule bien, on est entre les platanes.
Vous n'avez qu'à rouler à 80 tout le temps, sauf quand c'est à 50 et 30.
C'est exactement
et
ce que je fais.
Pas mal. Plutôt d'aller à 90, oui. Comme
et
ça.
Et Sébastien dit, autre indice pour Jean-Philippe, si tu doubles tout le monde, il y a des chances que tu roules trop vite.
C'est vrai. Et je me cale sur le rythme des autres.
Oui. Le Morning RMC, faut-il instaurer des jauges dans les lieux touristiques après l'île de Bréhat ou les Calanques de Marseille? La question se pose à Chamonix ou encore au Mont-Saint-Michel. Le premier site touristique de France accueille chaque année plus de 3 millions de visiteurs et ça inquiète Jean-Marc Kobach, guide au Mont-Saint-Michel justement.
Ce qui est insupportable, que ce soit pour ceux qui travaillent, ceux qui visitent, c'est la surfréquentation. Ça grouille, ça gueule, ça sent la frite. Je pense qu'à un moment, on devrait imposer des jauges. Pour des raisons de confort évidentes, mais également pour des raisons de sécurité et de conservation. Certains jours d'été, si on devait évacuer la rue principale, ce serait l'horreur. On n'y parviendrait même pas.
Est-ce qu'il faut, Emmanuel Dancourt, mettre des jauges au Mont-Saint-Michel et dans tous les sites touristiques de France?
Absolument. Je suis même très surprise que le Mont-Saint-Michel se soit déjà pas fait depuis des années. Pour y être allé une seule fois dans l'été, ben, j'y suis pas allée, en fait. J'ai fait demi-tour. Ah. Alors, j'y étais déjà allée une fois avant, à des moments plus propices. Évidemment, il faut absolument préserver ce lieu ou d'autres lieux magnifiques en France, qui est quand même la première destination touristique mondiale. Il faut absolument mettre des jauges. Et en plus, on le comprend. Moi, je me souviens d'être allée en Italie. Je voulais aller voir une rade qui était magnifique. On m'a dit, vous ne vous êtes pas inscrite. Mmh. Et la jauge est dépassée. Eh ben, on était pas contents, mais on a bien compris. On a fait demi-tour. Et la prochaine fois, on s'organisera. Évidemment qu'il faut préserver ce patrimoine absolument. Et puis, préserver la qualité de la rencontre avec le lieu. Mmh. Si on est trop,
excusez-moi.
C'est la qualité de la rencontre.
La rencontre avec le lieu.
Oui, avec le
lieu. Parce que vous êtes une citoyenne du monde. Et ben, puisqu'on est dans les poussifs.
Non, mais parce que tu vois,
chaque lieu a une âme. Chaque lieu a une vibration. Ah, et à un moment, il faut que tu rentres en connexion avec ce lieu. Non, mais ça, profiter de l'espace. Okay. Quand vous voulez
avoir une belle rencontre avec un vendeur de galettes ou de souvenirs au Mont-Saint-Michel.
Non, surtout avec le Mont-Saint-Michel.
Faire un câlin.
Mais quand les rencontres typiques au Mont-Saint-Michel, c'est moyen quand même.
Quand t'es dans une foule au Mont-Saint-Michel, de quoi tu profites?
Ah, bah, de rien.
T'es embarqué par la foule. Il y a du bruit.
Des quotas, ça ne veut pas dire que tu seras seul sur le Mont-Saint-Michel.
Non, oui. Pas seul.
Mais une visite
mais au
privée.
Moins,
là,
hein. Tu peux, bien sûr que non, mais au moins,
eh ben, elle
tu peux
ses souvenirs tranquilles sans faire la queue.
Tu peux vivre ta rencontre dans des conditions, je trouve, respectables, avec le lieu, le fait de vivre ce lieu, de prendre du temps, de ne pas être oppressé par une foule, de pouvoir marcher sans te faire écraser les pieds.
Aller à l'abbaye, ça c'est bien.
Voilà. À quoi?
Aller à l'abbaye du Mont-Saint-Michel.
Bien sûr.
Pour le coup, là, c'est quand même un petit havre de paix, encore heureux. Au Mont-Saint-Michel, c'est le seul lieu où tu es à peu près tranquille.
Mais moi, vous moquez, mais je suis totalement d'accord avec Emmanuel. La rencontre avec le lieu, l'atmosphère, effectivement, profiter du Mont-Saint-Michel pleinement, et quand on y va, c'est Disneyland.
Voilà.
C'est vraiment, c'est atroce.
Alors que c'est un lieu spirituel à la base.
Voilà,
tu payes 50 euros ton omelette, enfin, c'est formidable.
Vous avez jamais, quand vous êtes dans un lieu comme ça, vous êtes en osmose avec, vous sentez, oui, alors on va passer
pas au Mont-Saint-Michel, hein.
Et justement, et il faut pouvoir être en rencontre avec ce lieu et pouvoir sentir toutes les vibrations qu'il peut avoir. Là, vous moquez, je vous vois rigoler. Mais non, encore une fois, un lieu spirituel, religieux ou autre, il y a des choses qui se dégagent et ce genre de choses. Alors, moi, je vous dis, je suis athée, hein, donc il n'y a pas de connexion avec une religion. Mais au niveau de l'architecture, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'atmosphère, il faut être en harmonie avec le lieu qu'on visite et quand on est comme ça écrasé par la foule.
On voit 18 bus devant le Mont Saint-Michel,
quand on voit
c'est
les
moins
bus
en harmonie
débarquer,
là.
Quand oui. on voit c'est les ça. Gens qui s'amassent comme cette espèce de gigot d'agneau devant la boutique, on n'a pas cette aventure et cette expérience avec le lieu.
Non, il y a pas d'aventure spirituelle là, c'est vrai que c'est compliqué.